Personnellement, ce qui m'a le plus touché et marqué dans ce Saint et Grand Concile pan orthodoxe, c'était les moments de prière. Tous les jours, il y avait des divines liturgies, donc la liturgie eucharistique, qui était co-présidée par les primats, en particulier la première liturgie eucharistique de la Pentecôte et la dernière liturgie eucharistique de tous les saints, puisque dans le calendrier orthodoxe, la fête de tous les saints est célébrée le premier dimanche après la Pentecôte. Je crois que ce sont ces moments-là qui m'ont le plus marqué, à la fois par la beauté de la liturgie et aussi par le signe d'unité que ces liturgies exprimaient, et puis aussi par la profondeur des homélies qui étaient prononcées. La liturgie eucharistique est la manifestation de l'Église et en particulier de la conciliarité, de la synodalité de l'Église, comme l'a souvent fait remarquer le patriarche œcuménique au cours de ce Saint et Grand Concile.
Alors justement, vous parlez de cette conciliarité. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire que ce concile a montré une unité des Églises orthodoxes ?
Ce concile, il est à la fois l'aboutissement d'un long chemin et le début d'un nouveau chemin. Il a été préparé depuis 50 ans par toutes les églises orthodoxes, par cette dimension pan-orthodoxe de préparation. Il est exceptionnel. Comme on le sait, malheureusement, certaines églises orthodoxes ne sont pas venues. Néanmoins, c'est un concile qui, je pense, marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'église orthodoxe, non pas seulement à cause des documents qui ont été adoptés, non pas seulement à cause du concile lui-même, mais surtout à cause de la conciliarité, à cause de la synodalité qui a été, je pense, revitalisée grâce à ce concile. La synodalité, c'est comme le mot d'ailleurs l'indique, c'est un chemin commun que donc les églises orthodoxes font ensemble, et c'est le début de ce chemin. Même s'il y a des imperfections sur ce chemin, si toutes les églises ne sont pas venues, néanmoins c'est un chemin qui commence et qui, je pense, aura des conséquences importantes. Une des conséquences importantes qui a été décidée, c'est que de tels conciles seront désormais convoqués tous les 7 ou 10 ans.
Finalement, même l'absence de 4 églises ne termine pas ce bilan, parce qu'il va y avoir l'accueil de ce concile et puis ensuite d'autres qui vont venir.
Alors il faut voir maintenant quelle sera la réception des décisions du concile, car dans l'église orthodoxe, l'autorité d'un concile ne tient pas seulement à sa convocation, à sa composition, aux décisions qu'il prend, mais aussi et surtout à sa réception par le plérôme de l'église. Donc il faut maintenant voir comment ces documents seront reçus, en particulier par les églises qui n'étaient pas représentées.
Des observateurs ont parlé d'un concile Vatican II de l'orthodoxie. Peut-on vraiment faire cette comparaison? Peut-on parler d'un aggiornamento, d'une mise à jour de l'orthodoxie face aux nouveaux défis?
Alors, ce concile, il était surtout consacré à des questions internes à l'Église orthodoxe. Et le patriarche œcuménique a dit que c'est seulement dans un deuxième temps que l'Église orthodoxe, peut-être à l'occasion de nouveaux conciles, pourra aborder des questions externes. Le patriarche œcuménique a insisté sur le fait qu'il fallait d'abord régler les questions internes pour pouvoir ensuite aborder les questions externes. Mais ces questions externes, elles ont été en grande partie abordées par le message et surtout par l'encyclique qui, pour la première fois, permet à l'Église orthodoxe de parler d'une seule voix, en tout cas de toutes les églises qui étaient représentées, d'une seule voix non seulement sur les questions qui préoccupent l'Église orthodoxe, mais aussi sur les questions qui préoccupent l'humanité, comme l'environnement, la bioéthique, les relations Église-État, l'éducation, la jeunesse et d'autres sujets. La comparaison avec Vatican II n'est peut-être pas tout à fait justifié dans la mesure où c'est un concile qui était très bref. Il a duré juste une semaine, alors que le concile Vatican II a duré plusieurs années, avec plusieurs sessions. Néanmoins, c'est un processus conciliaire qui, par sa portée, pourrait avoir pour l'Église orthodoxe des conséquences comparables à Vatican II.
Alors, vous l'avez dit, la majorité des thèmes qui ont été débattus étaient des questions internes. Quel bilan peut-on faire, justement, sur la question des diasporas, de l'autonomie des Églises ?
Toutes les décisions avaient été préparées dans le cadre des conférences pan-orthodoxes préconciliaires, donc il n'y a pas eu de nouveauté. Sur la question des diasporas en particulier, il a été décidé de confirmer la décision qui avait été déjà prise par la conférence pan-orthodoxe préconciliaire de 2009, qui institue des assemblées épiscopales orthodoxes dans différentes régions du monde pour manifester dans la conciliarité l'unité de l'Église orthodoxe malgré la superposition des juridictions. En ce qui concerne l'autonomie des églises, c'est aussi une confirmation d'un processus qui fonctionne déjà dans la réalité, c'est-à-dire que chaque église mère, entre guillemets, peut reconnaître des églises autonomes en son sein. C'est le cas, par exemple, de l'église orthodoxe russe qui a reconnu en son sein l'église d'Ukraine, de Biélorussie, de Moldavie et d'autres, ou l'église de Serbie qui a reconnu l'archevêché d'Ohrid comme une église autonome, ou comme aussi l'église de Roumanie qui a reconnu la métropole de Bessarabie comme une église autonome. Donc ce sont des questions qui ont déjà connu des débuts de réalisation dans les années précédentes et qui ont été portées sur la table du Concile, non pas pour prendre des décisions qui vont changer, mais surtout pour manifester dans la conciliarité l'unanimité de l'Église orthodoxe sur ces questions.
Qu'a dit ce concile sur la relation avec les autres églises chrétiennes ?
Alors l'église orthodoxe est engagée dans le mouvement œcuménique depuis quasiment la fondation de ce mouvement, depuis le début du XXe siècle. Le patriarcat œcuménique, l'église de Constantinople en particulier, a fait partie du conseil œcuménique des églises dès la fondation de ce conseil en 1948. Les églises orthodoxes d'Europe de l'Est ont adhéré au conseil œcuménique des églises à partir de 1962. Donc ce n'est pas un engagement nouveau, simplement le document qui a été adopté sur les relations de l'Église orthodoxe avec le reste du monde chrétien, confirme l'engagement de l'Église orthodoxe dans le mouvement œcuménique et son désir de continuer les dialogues avec les autres chrétiens.
Mais au-delà du texte final, la question de la synodalité que vous évoquiez tout à l'heure peut aussi être une base de dialogue entre les églises, selon vous.
Ce concile vise à manifester l'unité de l'Église orthodoxe dans la conciliarité ou dans la synodalité. Et comme on le sait, c'est un thème aussi qui est très cher au pape François, et il l'a notamment évoqué dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, l'échange des dons entre les églises catholique et orthodoxe, et il mentionne justement la synodalité comme un don que l'Église catholique peut recevoir de l'Église orthodoxe. Donc cette réflexion actuelle de l'Église orthodoxe sur la synodalité, elle intéresse aussi l'Église catholique qui est aussi en pleine réflexion dans ce domaine, et je pense que c'est un champ œcuménique très très riche et très fécond pour l'avenir de nos relations.